Bien, donc enfin, moi je suis très content, très heureux de vous accueillir ici. J'avais imaginé pouvoir le faire début janvier, mais vous n'étiez pas disponible. Alors, pour plusieurs raisons, donc vous êtes directeur de recherche au CNRS et enseignant à l'IEP de Grenoble. Et par ailleurs, vous êtes un spécialiste à la fois des politiques culturelles, mais aussi, dire un peu de façon hâtive, sans doute vous me contredirait des politiques territoriales, en tout cas les choses, ce que vous avez pu publier, et en particulier le texte assez dense que vous publiez dans cet ouvrage qui s'appelle Les nouveaux enjeux des politiques culturelles, traite en particulier cette question et de la métropolisation. J'avais lu il y a un petit moment déjà, je ne me souviens plus, 4-5 ans, une formule qui me semblait assez juste et assez belle dans vos propos à propos de la démocratisation culturelle et de l'éducation populaire. Vous aviez écrit quelque chose qui était à peu près de mémoire, mais ça m'avait marqué, qu'il y avait toujours des gens au ministère de la Culture et en particulier à la direction du développement et à la formation pour entretenir les braises de l'éducation populaire. Et il me semble que sur cette question de la démocratisation, de l'éducation populaire, qui nous intéresse particulièrement, nous, bibliothécaires, vous n'êtes pas si nombreux à la fois à y réfléchir et surtout à le revendiquer. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles vous avez été demandé cet article pour le bulletin des bibliothèques de France, mais aussi pour lesquelles, une des raisons qui nous intéresse vraiment ici, quelle articulation entre la culture savante, qui a été quand même portée par les bibliothèques longtemps, et la culture dite populaire avec toute la série de guillemets qu'on peut y mettre, la démocratisation de la démocratie culturelle, la bibliothèque comme institution légitime. Par exemple, on va publier le 5 juin prochain un ouvrage qui s'appelle Les bibliothèques populaires, coordonné par Agnès Sandras, qui sera concomitant à un colloque organisé à la BNF, pardon. Bref. Toutes ces questions sur la fréquentation, sur les publics, sur l'idée qu'avait soulevée à un moment donné le Crédoc que pour obtenir une fréquentation plus importante, il fallait que les bibliothèques se tournent vers le divertissement, alors que nous pensons, nous, ici dans cette maison, qu'elle doit continuer à se tourner vers l'éducation. Bref, toutes ces questions nous intéressent beaucoup et on avait, en tout cas, oui, il me semble qu'on a besoin de votre regard, de vos réflexions, de vos écrits. Sur ces questions et de vous entendre. Et donc, c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Je vais m'arrêter de parler. Juste citer ce que disait Lacroix en 1895. Quand on parle d'une bibliothèque populaire sans épithète, c'est toujours une œuvre franc-maçonnique. Pas mal. C'est à vous, donc vous appuyez sur le petit bouton.
Merci beaucoup pour cette très aimable invitation et cette non moins aimable introduction. Je vais effectivement essayer de remplir le contrat qui a été fixé, c'est-à-dire évoquer les rapports entre éducation populaire et politique culturelle d'une manière générale. Alors, je vais le faire évidemment en prenant appui pour une partie sur le papier qui est paru dans le dernier numéro de BBF, mais je vais peut-être aussi anticiper sur un prochain numéro, puisque dans un prochain numéro de BBF, je ferai le complément du papier que j'ai déjà fait. Donc, je prolongerai un peu la réflexion sur les décennies. Après 1968, je me suis arrêté à peu près en 68 pour le premier papier. Donc vous aurez éventuellement la primeur du deuxième papier. L'un des premiers problèmes lorsqu'on aborde ces questions, vous avez raison de dire que nous sommes peu aujourd'hui à y réfléchir. Nous sommes peu à y réfléchir, peut-être même sommes-nous de moins en moins, bien qu'il y ait eu quelques thèses dans les dernières années qui essaie de renouveler un peu les choses. Alors, pas du point de vue historique, parce que je crois que du point de vue historique, maintenant, à part des travaux un peu plus précis sur telle ou telle association, sur tel ou tel mouvement, ou peut-être sur une monographie sur l'éducation populaire dans telle ou telle ville, les contours sont à peu près bien dessinés. En revanche, il y a une interrogation qui est très importante et qui, à mon sens, reste posée, malgré les thèses en question, sur ce qu'est aujourd'hui l'éducation populaire, sur la façon dont on pourrait revendiquer de faire de l'éducation populaire dans certaines associations, dans certains collectifs, ou dans certaines institutions. Vous avez parlé des bibliothèques, la question se pose pour les bibliothèques, mais elle se pose aussi pour les musées. Vous avez d'ailleurs évoqué cette question du divertissement. Il y a des musées qui se posent exactement le même genre de questions. Est-ce que nous devons devenir des entertainment centers avec les musées au bout des doigts, hein, c'est l'expression museum at the fingertips, comme notamment toute la muséologie nord-américaine, canadienne, nous l'a montré et l'a introduit également en France, ou bien devons-nous au contraire faire du musée autre chose que le temple de l'art ou le temple de la science, mais une nouvelle agora. Et à ce moment-là, effectivement, la question se pose aussi des manières de construire cette agora, sachant que on ne peut pas, bien entendu, se situer en dehors des pratiques, notamment des pratiques impliquant les technologies des gens aujourd'hui. Ça paraît totalement impossible. Voilà, donc c'est une réflexion qui est vaste, qui dépasse le monde des bibliothèques, qui dépasse le monde des musées, qui est adressée directement aujourd'hui aux politiques culturelles en général. Et donc, du coup, ça me donne une forme de justification, si j'en avais besoin d'une, pour reprendre effectivement la question des rapports entre éducation populaire et politique culturelle. Alors là, je vais le faire en me donnant aussi des bornes historiques. Donc, je crois que le départ de mon exposé, c'est la libération en France, donc l'année 1944. Non pas que ce qui se passe avant soit inintéressant, bien au contraire, mais c'est aussi pour éviter une vue un peu trop cavalière de l'histoire et essayer de se concentrer sur quelques moments importants. Bon, je serai amené effectivement à refaire quelques flashbacks, quelques retours en arrière sur notamment le 36 et puis aussi Vichy, puisque les deux moments politiques que sont le Front populaire et le régime de Vichy, sont importants pour la construction d'une nouvelle éducation populaire en 1944. Quand je dis une nouvelle éducation populaire, je reprends à la fois un thème et un sentiment qui étaient partagés par les acteurs de l'époque. L'idée que on allait enfin mettre en place une véritable éducation populaire qui soit autre chose que les bons sentiments des militants. Les bons sentiments des militants, de militants mal formés, de militants pressés, de militants quelquefois un petit peu à l'étroit dans leur présupposé, ces militants-là devaient faire place à des militants beaucoup mieux formés, beaucoup plus au fait des réalités de ce monde, ayant donc une vision nouvelle aussi du rapport au public, des techniques de transmission, de communication auprès de ce public, toutes choses qui étaient plus ou moins oubliée ou en tous les cas oblitérée dans l'action des militants d'avant-guerre qui se satisfaisaient finalement de leurs convictions et de leur générosité, de leur ferveur éventuellement, plutôt que de se poser la question des conditions dans lesquelles, des conditions scientifiques dans lesquelles leur message aurait eu de l'effet, de l'impact, du succès auprès de leur public. Donc, 1944, c'est un moment d'immense espoir, et c'est en même temps un moment d'une immense crise. La crise, elle a provoqué la guerre, elle a provoqué une guerre absolument inédite, une catastrophe terrible. Et évidemment, on essaie en même temps de penser les conditions qui ont amené à cette guerre et en même temps de se donner les moyens d'un renouveau, d'une rénovation, d'une renaissance. Souvent d'ailleurs, le terme de révolution apparaît dans les textes de l'époque et on a souvent l'impression que ces militants veulent faire d'une certaine façon table rase du passé. Et pour faire table rase du passé, pour reconstruire de nouveau, il faut des conceptions nouvelles. Il faut une formation nouvelle, il faut une structuration intellectuelle qui soit nouvelle. Cette structuration intellectuelle, d'où peut-elle venir ? Elle vient certainement de grands intellectuels qui ont, depuis longtemps, montré leur attachement à la question de l'éducation populaire ou à la question de la culture en général et à la question de la démocratisation de la culture en particulier. Je cite par exemple le cas de Malraux ou d'Aragon qui ont été pendant les années 30 à l'origine d'un grand nombre de manifestations de défense de la culture, de popularisation du thème de la culture et qui ont insisté dans les cercles qui étaient les leurs, Parti communiste pour Aragon, d'autres cercles proches de la gauche pour Malraux, sur la nécessité de cette démocratisation des arts. Mais à côté de Malraux ou d'Aragon, il y a d'autres personnes, comme par exemple Jean Guéhenno, un écrivain connu, reconnu, un écrivain respecté, sinon célèbre, qui, à travers des revues, comme la revue Vendredi, à travers des réseaux, s'est posé aussi comme une sorte de conscience de cette éducation populaire, de cette culture pour tous. La question est effectivement de savoir, à partir de ce moment, comment on va mettre en place une organisation pratique qui permette de donner du sens à ces conceptions qui sont des conceptions revues ou en tous les cas corrigées dans le sens d'une volonté de précision par rapport aux idées et aux idéaux de l'avant-guerre. Alors, cette organisation pratique, on va la voir immédiatement à l'œuvre dans deux champs qui, au moment où ils se constituent, appartiennent au même ministère de l'éducation nationale. D'un côté, on a la constitution avec Jeanne Laurent d'une aventure, d'une entreprise tout à fait intéressante pour laquelle je considère moi qu'elle est absolument extraordinaire dans son époque et en même temps qu'elle est sûrement la naissance des politiques publiques modernes de la culture. On sait très bien, évidemment, que c'est Malraux qui crée en 1959 le ministère des Affaires culturelles, mais à mon sens, l'invention de la politique culturelle, c'est Jeanne Laurent qui l'a fait à partir de 1944, entre 1944 et 1946. Donc d'un côté, on a une femme, Jeanne Laurent, à la tête d'un sous-secrétariat, d'une sous-direction du secrétariat d'État aux Beaux-Arts, à l'intérieur du ministère de l'Éducation nationale. Et de l'autre côté, on a la création d'une direction nouvelle pour l'éducation populaire. D'abord, elle s'appelle direction de la culture populaire. L'expression est importante, on le verra tout de suite. Et donc, on a dans ce ministère deux expériences qui vont se constituer et qui vont cheminer, alors, administrativement, apparemment, de façon étanche, mais sur le terrain et en termes de système d'acteurs, avec des relations, des liens réellement très, très, très forts. Entre les deux mondes. Alors, la première direction de la culture populaire, elle est confiée à Guéhenot. Elle est confiée à Guéhenot, il restera une année, hein, ça ne sera pas très longtemps, parce qu'il ne supporte pas, le fait que, en réalité, on ne peut pas faire table rase du passé et que les mauvaises habitudes administratives anciennes reviennent au galop dès sa prise de fonction. Alors, ce qui est intéressant dans l'expérience de Jean Guéhenot, c'est qu'il a voulu intituler cette direction, d'abord, c'est une appellation qui ne durera pas, direction de la culture populaire. Et donc, du coup, la première énigme que nous avons à résoudre, c'est celle-là. Que signifie culture populaire à ce moment-là? Qu'est-ce que l'on peut dire de cette formule telle qu'elle est employée par Guéhenot à ce moment-là et par un certain nombre d'autres acteurs, d'autres associations, mais pas toutes, hein, pas toutes. Alors, je crois effectivement que cette expression est à interroger au moins sous deux aspects. Le premier aspect, c'est sa filiation avec 36. Il est clair que c'est en 1936, avec le Front populaire, que l'on a cette volonté de populariser la culture. Et que... aussi bien dans le ministère et notamment au secrétariat d'État à la jeunesse et aux loisirs que dirige Léo Lagrange en 1936, que parmi un certain nombre d'acteurs du monde culturel et notamment dans le domaine théâtral, des gens comme Dasté, Copeau et d'autres, on a cette volonté de faire un théâtre populaire ou de faire de la musique populaire ou de faire de la culture populaire en général. Donc c'est bien avec 36 que se noue cette formule, enfin que cette formule devient une formule classique qui est reprise par les uns et les autres. Et cette formule, elle prend un sens évidemment tout à fait particulier quand on sait qu'elle est au fond le résultat d'un compromis qui a été passé par le Parti communiste et d'autres courants, mouvements, obédience de la gauche non communiste dans les années, au début des années 30, jusqu'en 1932. Le Parti communiste suivait les directives de son grand frère de l'URSS qui avait imposé une ligne culturelle, classe contre classe, et qui essayait de déterminer pour la classe prolétarienne les linéaments d'une culture qui lui serait propre, donc d'une culture prolétarienne. Et on a dans, évidemment, en URSS, mais aussi en France, une tentative de constituer une culture populaire qui serait prolétarienne, c'est-à-dire qui serait faite par les prolétaires, pour les prolétaires. Cette conception était tout à fait en ligne avec l'idée de classe, enfin, l'idée politique de classe contre classe, c'est-à-dire de non-compromission avec la petite bourgeoisie, notamment la petite bourgeoisie réformiste du parti de la SFIO, du Parti Socialiste ou Radical Socialiste de l'époque. Ça, c'était vraiment quelque chose de très fort. À partir de 1932, l'URSS, voyant que le danger fasciste en Europe croissait à toute allure, s'est rendu compte que s'il n'y avait pas d'alliance entre les socialistes dans les pays européens et les communistes qui étaient en dehors du parti bolchevique russe, vraiment encore faible, enfin, du point de vue numérique, du point de vue de leur audience politique, il y avait un danger de fascisation totale de l'Europe. D'où cette idée, à partir de 1934, de faire un front commun pour la défense de la culture. C'est à partir de ce moment-là qu'on voit apparaître un certain nombre de slogans, de congrès, de manifestations portant cette expression de défense de la culture. Entre parenthèses, on ne parlait jamais de défense de la culture auparavant. On ne parlait pas de la culture de cette façon-là. Hein. On parlait des beaux-arts ou on parlait de la civilisation. Mais parler de la culture, c'est pas quelque chose qui faisait sens pour un pays comme la France. Donc, il y a bien là aussi l'invention de quelque chose de nouveau qui est effectivement cette conception de la culture comme un ensemble général qui se différencierait des beaux-arts d'une part et d'autre part de cette idée beaucoup plus ambitieuse, beaucoup plus vaste de civilisation, beaucoup plus universaliste aussi, de civilisation. Donc là, on a une première structuration avec cette notion avec l'abandon de la culture prolétarienne, on a une première construction, une première tentative de donner du sens à la notion d'une culture pour le peuple, une culture populaire. La deuxième manière d'expliquer cette notion de culture populaire vient des réflexions qui se sont menées à l'intérieur d'un certain nombre de mouvements, et notamment dans le mouvement qui naît à ce moment-là, en 1944, qui s'intitule Peuple et Culture. C'est une association qui va être officialisée en 1945, mais elle est née en réalité en 1944, et elle est née d'une réflexion qui a été menée pendant 2 ans à l'école des cadres d'Uriage dans la région grenobloise, puis ensuite dans l'expérience des maquis de 1942 à 1944. Cette école d'Uriage était une institution créée par Vichy pour former des cadres de jeunesse, former donc les futurs, ce qu'on appellera ensuite des animateurs de jeunesse, qu'on appelait essentiellement à cette époque des chefs de jeunesse. L'idée étant que la France avait besoin de chefs et que les chefs anciens ayant failli, il fallait recréer une génération nouvelle de chefs. Et Vichy s'est beaucoup occupé justement de cette formation des chefs. Et dans cette école des cadres d'Uriage, qui était extrêmement qui étaient extrêmement diverses du point de vue de ces options idéologiques et politiques. Il y a eu une véritable réflexion sur quelle serait la culture à construire pour la France de demain. Puisqu'on doit former des jeunes, on doit former des chefs, quel type de formation doit-on leur donner? Quel type de culture doit-on leur donner? Et c'est là que est né, sous l'impulsion du personnalisme de Mounier, notamment, une forme de réflexion un peu unanimiste de culture populaire, d'une culture qui serait faite par l'ensemble des groupes sociaux et non pas simplement par une élite et qui serait partagée par tous. Donc une forme de constitution collective de la culture à partir de ce qu'il y aurait de meilleur des élites de chacun des groupes sociaux, de chacun des segments d'une société. Ces segments-là s'uniraient entre eux et finalement feraient cette culture qu'on appellerait à ce moment-là culture populaire, parce qu'elle serait la culture de l'ensemble du peuple, pas simplement du prolétariat ou des ouvriers, mais et puis pas non plus du peuple d'une manière vague et générale, mais au contraire d'un peuple qui est là vu d'un point de vue sociologique, qui est vu à travers ces divisions sociologiques, qui est vu comme une composition de groupes différents les uns des autres. Cette conception va être affinée et publiée dans un manifeste, qui est le manifeste de Peuple et Culture, qui a eu énormément de succès à cette époque, dans lequel, effectivement, il y a un certain nombre de formules canoniques du style « il faut rendre le peuple à la culture et la culture au peuple », il faut que la culture soit produite par l'ensemble des groupes. La culture n'est pas donnée, elle est à construire. Donc on a tout un ensemble de conceptions, de constructions collectives de la culture à venir. Donc c'est un point tout à fait important. Ce n'est pas essentiellement un héritage, c'est une construction à faire. C'est un renouveau à créer collectivement. Et c'est un renouveau à créer collectivement en partant de cette notion très importante qui est le rapport à la vie. L'idée qu'ont les membres de Peuple et Culture, et un certain nombre d'autres, hein, mais c'est cette idée que la culture a été trop souvent séparée de la vie. Et donc, il faut qu'elle soit de nouveau dans la vie et qu'elle exprime la vie. Alors, c'est un thème qui n'est pas totalement neuf, bien entendu, puisque on sait que dans la philosophie du XIXe siècle, dans un certain nombre de théories artistiques du XIXe siècle, on a cet appel à la vie, ce rappel même qu'il faut que l'art et la vie soient unis, et qu'il faut que l'art parte de la vie. On pense à Baudelaire, par exemple, le peintre de la vie moderne. On peut penser à Nietzsche et à d'autres. Mais en réalité, dans la consommation culturelle de la société française, à part quelques avant-gardes, on n'a pas l'impression, on ne donne pas l'impression que la culture soit vraiment unie à la vie et qu'elle exprime réellement la vie. Donc là, il y a un vitalisme qu'il faut souligner, qui est important, et qui est évidemment tout à fait en situation, puisque, je le disais tout à l'heure, on a cette impression que on peut faire table rase du passé et donc créer, quasiment ex nihilo, une nouvelle philosophie. Alors, c'est la première dimension très intéressante et très nouvelle de cette formule de culture populaire, mais il y en a une deuxième, c'est qu'on voit bien que la référence à la vie, d'une part, que la référence à l'ensemble des groupes sociaux comme étant contributeurs à cette culture, d'autre part, nous amène très 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 directement vers une conception de la culture qu'on dira un peu plus tard anthropologique, c'est-à-dire d'une conception de la culture comme totalité sociale, comme totalité des formes symboliques d'une société, et pas simplement comme expression des beaux-arts dans leur tradition, si magnifique soit-elle. Donc, cette conception-là, elle est, me semble-t-il, très importante parce qu'elle est nouvelle en France. Elle est nouvelle comme revendication sociale et politique en France. Et elle n'a aucun sens si on se réfère à la façon dont le secrétariat des Beaux-Arts, dont la tradition du secrétariat des Beaux-Arts, avait fonctionné jusqu'à présent. Alors, c'est intéressant de voir à côté de cette construction de culture populaire sous la direction de Jean Guéhenno, ce que fait de son côté Jeanne Laurent. Jeanne Laurent a un principe en tête qui est, enfin le principe dont elle ne dévira absolument pas, qui est que il faut apporter de l'art, il faut apporter de l'art vivant dans la société française, et il faut le faire à partir des villes en France. On ne peut rien faire à Paris. Paris est une sorte de lieu trop compliqué, trop lequel les intérêts, notamment les intérêts privés, du théâtre privé, sont trop forts, dans lequel aussi les publics se satisfont de ce qu'ils ont, et où il ne semble pas qu'il y ait une véritable appétence pour autre chose que ce que l'on a toujours vécu. Et donc ce qu'elle veut faire, c'est créer des centres de création dramatique dans un certain nombre de villes de province. Et pour cela, elle a besoin de soutien auprès de personnes, de personnalités, d'associations dans les villes en question. Eh bien, ces soutiens, ces personnalités sont en réalité les membres des associations d'éducation populaire de l'époque. Et cette espèce d'aventure un peu fulgurante que met en place Jeanne Laurent en créant en 1946, elle y réfléchit depuis 2 ans, elle a failli réussir son premier centre dramatique à Grenoble, mais le maire n'en a pas voulu, avec justement les gens de Pop et Culture. Elle réussit la création de son premier centre dramatique, qui d'ailleurs, par parenthèse, c'est tout à fait intéressant, prend la forme d'un syndicat intercommunal à vocation unique. Donc l'intercommunalité culturelle commence avec la politique culturelle, en 1946. C'est le syndicat intercommunal de vocation unique formé par les villes de Strasbourg, Colmar et Mulhouse. Donc c'est quand même quelque chose de tout à fait étonnant dans cette France de l'époque. Puis ensuite, elle en crée d'autres à Aix-en-Provence, à Toulouse, à Rennes, avant d'être limogée parce qu'elle va exploser le budget du ministère si elle continue. Bon. Donc, ce que veut faire Jeanne Laurent, elle veut le faire avec ceux qui sont les artisans du renouveau de l'éducation populaire. Et de ce point de vue, il n'y a pas de hiatus. Simplement, elle insiste sur la question de la création, sur l'art et la création. Voilà. Et donc, nous sommes dans une période un peu particulière où nous ne voyons pas contradiction entre une politique qui serait une politique de création artistique et une politique visant à éduquer le peuple à travers les créations, notamment les créations artistiques et les créations dramatiques. C'est d'ailleurs à partir la création du Festival d'Avignon, puis de la création du TNP à Paris, ce que va faire Jean Villard, en s'appuyant sur les techniques, sur les publics, sur les associations de l'éducation populaire de son temps. Donc il n'y a pas il n'y a pas de clivage à ce moment-là. Alors, on aurait pu effectivement penser que les choses allaient continuer et qu'elles allaient se développer de façon intéressante, même si elles ne se développaient pas très très vite. En réalité, en 46, tout ça, ce 46-47, tout ça retombe un peu. Les gouvernements qui se succèdent de la 4e République sont occupés par autre chose que l'art et la culture ou même l'éducation populaire. La question de la reconstruction est évidemment prioritaire. Puis la question de la décolonisation. Donc ce sont des grands problèmes qui sont à l'agenda politique. Et donc ces deux aspects-là disparaissent un peu, enfin ne font plus la une, ne sont plus considérés comme des choses dignes d'intérêt. On va voir, il faudra attendre l'arrivée du général de Gaulle en 1958, puis la création du ministère des Affaires culturelles en 1959, le Haut Comité à la jeunesse, puis qui deviendra en 1963 le secrétariat d'État à la jeunesse, au sport et au loisir, confié à Maurice Herzog, pour que les choses reprennent leur cours et qu'elles aient une impulsion décisive. Alors, l'impulsion décisive que va recevoir l'éducation populaire ne vient pas d'une illumination des responsables de l'administration, elle vient aussi d'une nécessité qui est celle de l'urbanisation. À partir du début des années 50, je vous ai dit que la France était en reconstruction, et la reconstruction, c'est aussi la construction de nouveaux ensembles résidentiels pour loger les gens qui sont mal logés dans les centres-villes anciens, et puis pour accueillir ceux qui sont victimes de l'exode rural, et aussi pour accueillir de plus en plus des immigrés. Donc on va couvrir la France d'ensembles résidentiels, et on va s'apercevoir très rapidement que ces ensembles résidentiels, il faut leur donner une vie, il faut les animer. D'où l'idée de l'animation de la vie sociale. Il faut donc trouver les moyens d'animer la vie sociale. Et on va se tourner tout naturellement vers les associations d'éducation populaire en leur disant, vous avez, vous, des techniques, des moyens, des réseaux, des habitudes de travail avec les jeunes, de travail avec les publics qui veulent se former. Vous avez l'habitude d'intervenir dans des situations très différentes. Alors, peut-être, vous êtes ceux qui sont capables de répondre aux besoins d'animation qui se fait sentir dans la France entière. Et si besoin d'animation il y a, alors ça veut dire aussi qu'il va falloir créer des formations pour les animateurs, et il va falloir créer des postes de salariés permanents pour les animateurs. Et du coup, les associations d'éducation populaire qui, économiquement, étaient plutôt dans une situation de détresse, vont connaître une espèce d'embellie parce que les fonds publics vont venir abonder les budgets des associations d'éducation populaire pour ces deux fonctions essentielles, la formation des militants, des cadres, des jeunes, etc., et la prise en charge par l'État du salaire des futurs animateurs ou des animateurs. La particularité de cette époque, c'est que le Haut Commissariat à la jeunesse, ou d'ailleurs un peu plus tard aussi le ministère des Affaires culturelles, ne vont pas prendre en charge directement ces postes de salariés ne vont pas donc administrer l'animation, mais vont la donner en délégation aux associations. Ce sont donc les associations d'éducation populaire qui vont être les employeurs et les formateurs des futurs animateurs. Cette situation est très importante parce que, d'une part, on peut penser que le ministère ou le secrétariat d'État n'avait pas du tout les moyens administratifs de créer et de gérer ces dizaines, puis ces centaines d'animateurs salariés. Donc, c'était plus facile de le faire à l'intérieur des associations. Mais aussi, c'était un gage de proximité avec les populations et avec les publics. Donc là, on a un élément tout à fait intéressant de l'action publique de l'époque, où il s'agit non pas de faire, mais de faire faire. C'est d'ailleurs le thème essentiel de 1936. Hein. En 1936, le secrétariat de Léo Lagrange ne fait pas, il ne fait rien. On lui reprochera beaucoup d'ailleurs de rien faire. Il fait faire par les associations. Donc on a une vision finalement de... On va ensuite appeler ça de co-gestion. On a une vision de co-gestion du monde de l'animation, de l'animation socioculturelle de l'époque par les associations et les pouvoirs publics. Très rapidement, les villes vont entrer dans le jeu et on aura donc une structure tripartite, association d'un côté, ministère de l'Éducation nationale ou secrétariat d'État de la jeunesse et au sport de l'autre, et enfin, troisième pilier, les villes qui vont commencer à financer elles-mêmes les postes d'animateurs. Des structures de concertation sont créées entre les associations elles-mêmes, entre les associations et l'administration. Et en 1964, va naître une structure tout à fait importante qui s'appelle le FONGEP, qui reçoit l'argent. C'est une structure paritaire formée par les fédérations associatives et l'administration. Structure paritaire qui reçoit l'argent, ensuite on y mettra les représentants des collectivités locales, qui reçoit donc les fonds publics, et ces fonds publics sont redispatchés à l'intérieur de l'ensemble des fédérations associatives pour financer les postes d'animateurs. Donc on a là un élément très important de structuration de ce monde. En 1959, quand se crée le ministère des Affaires culturelles, le ministère a dans son escarcelle des choses un peu bigarrées, un peu variées, et il a notamment la tutelle de l'éducation populaire. Donc, normalement, le ministère des Affaires culturelles aurait dû exercer la tutelle d'un certain nombre d'associations d'éducation populaire en 59. En 1962, la décision est prise essentiellement par Émile Biasini de reverser les associations dont le ministère des Affaires culturelles a la tutelle auprès du futur secrétariat d'État à la jeunesse et au sport qui est créé en 63. Et en 64, ce reversement de tutelle est accompli et donc le ministère des Affaires culturelles se retire du champ de l'éducation populaire. Donc on a effectivement là quelque chose comme une rupture par rapport à ce que je vous ai dit de l'état antérieur, notamment des années 44, 46, 47 à peu près. Donc on a là une rupture administrative. Beaucoup de commentateurs ont considéré que à partir de ce moment-là, eh bien, l'éducation populaire et la politique culturelle suivaient des cours différents, avaient leur propre logique d'évolution. Et ma conviction est totalement inverse. Ma conviction, c'est que ça n'est pas vrai. La preuve que j'apporte, c'est simplement celle de regarder comment fonctionnent les systèmes d'acteurs à l'intérieur du monde de l'éducation populaire, à l'intérieur du monde de la politique culturelle. Et je vois, effectivement, très souvent se croiser les mêmes réseaux, les mêmes personnalités, les mêmes hommes, les mêmes femmes, peu de femmes, les mêmes idées, avec aussi, au sein même du ministère des Affaires culturelles, vous avez parlé tout à l'heure de Braise, il y a des Braise, des Brandon qui sont encore bien rougeoyants, de la volonté de ne pas laisser, ce champ complètement en dehors de l'intérêt du ministère. Alors, il y a à l'intérieur du ministère une bagarre entre, par exemple, dans les années 61-62, entre Pierre Moineau et Émile Biasini, donc deux grands collaborateurs de Malraux, deux des plus importants, avec Gaëtan Picon. Biasini, lui, a une vision totalement différente de celle de Moineau. Moineau pense que puisque nous sommes en train de mettre en place cette animation socioculturelle, que cette animation socioculturelle passe par la création de nombreux équipements en dur, du béton, de la matérialité physique, que l'on va donc créer des équipements dans lesquels les animateurs vont œuvrer, dans lesquels les associations vont se retrouver, dans lesquels les populations vont venir pour échanger, pour faire des activités. Donc, il est important, d'après lui, de constituer ces équipements de proximité, dirons-nous aujourd'hui, comme relais des grands équipements que le ministère veut créer, les grands équipements, ou le grand équipement plutôt, étant la maison de la culture. Non. En 1961, le ministère fait connaître sa volonté de créer des grands équipements culturels d'un type nouveau en France, on appellera les maisons de la culture, et le problème de savoir quel va être le public de ces maisons de la culture se pose immédiatement. Bon. Et donc, c'est la raison pour laquelle Moineau pense tout de suite à l'articulation entre des équipements de proximité où les gens viendraient se former et le grand équipement de rayonnement artistique où aurait lieu la transmission culturelle, la diffusion culturelle, la création artistique. Donc ce beau schéma va être totalement mis à bas par Biasini, qui considère que il faut suivre l'intuition ou le sentiment de Malraux que les associations d'éducation populaire, ça n'a pas vraiment d'intérêt d'un point de vue artistique. C'est fait pour former. Et lui, son ministère, il est fait pour faire en sorte que les gens aiment l'art, hein, et que les gens éprouvent face à l'art le choc émotif ou sensoriel qui est celui que l'on doit avoir face à une œuvre d'art, qu'elle soit une peinture, une sculpture, un opéra, une pièce de musique ou je ne sais quoi. Donc, on a là, évidemment, quelque chose qui, à l'époque, n'est pas du tout une doctrine. Hein. C'est simplement des mots sur le papier, c'est quelques phrases, c'est pas du tout élaboré. Ça s'élaborera au cours du temps. Mais c'est suffisamment clair dans la tête de Malraux et de Biasini pour qu'ils considèrent que ce qu'ils veulent faire avec les maisons de la culture n'a rien à voir avec ce qui est en train de se mettre en place du côté de l'éducation populaire. Alors, du côté de l'éducation populaire, précisément, il y a les crédits, il y a les postes, il y a les équipements. Et donc, il ne faut pas non plus exagérer l'idée qu'il y aurait eu une sorte de désillusion de la part des associations d'éducation populaire d'avoir été lâchées par le ministère, alors que le ministère des Affaires culturelles ne leur apportait rien du point de vue, tangible, fongible, du point de vue matériel, du point de vue financier. Tout l'apport venait effectivement du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport et de son entreprenant responsable, Maurice Herzog, qui va savoir nouer avec les grands patrons de ces fédérations, qui deviennent maintenant des choses importantes, hein, des relations de confiance, et leur permettre effectivement de se projeter dans l'avenir. Et c'est ce qui va se passer. Ils vont se projeter dans l'avenir, c'est-à-dire qu'ils vont se projeter dans l'urbanisation rapide de la France de la fin des années 50, des années 60, jusqu'à disons, 1960, ben, les années 70. Le problème, c'est que la manière dont les associations, les fédérations d'éducation populaire se transforment pour devenir des gestionnaires de leurs équipements, pour devenir des gestionnaires de leurs emplois, cette manière-là est en contradiction, en tout cas ressentie, par les militants, par certains responsables de ces fédérations, comme par exemple André Philippe, le créateur de la Fédération des maisons des jeunes et de la culture en 1946. André Philippe, en 1968, donne sa démission. Il donne sa démission parce que, dit-il, les associations sont devenues des faire-valoir de l'État. Elles se sont syndicalisées, elles se sont corporatisées. Elles ont oublié le message qui était le leur dans les années de la libération. Et finalement, de quoi s'agit-il aujourd'hui? Eh bien, il s'agit ni plus ni moins d'un corps de pseudo-fonctionnaires d'État qui œuvre dans les quartiers à la mise en place d'activités qu'on appelle socioculturelles, mais qui ne sont pas vraiment porteuses du sens que l'éducation populaire voulait donner à l'origine. Donc on a cette désillusion idéologique, ce piège de l'institutionnalisation que un sociologue Michel Amiot avait parfaitement décrit à cette époque. Et donc on est effectivement entré dans une période nouvelle qui est la période de gestion. Les associations d'éducation populaire vont devenir en fait des associations ou des fédérations socioculturelles, d'animation socioculturelle de quartier, ce qu'elles sont restées pour la plupart d'ailleurs depuis. Du côté du ministère, comme je le disais tout à l'heure, on a au contraire cette volonté de ne pas abandonner le champ de la culture populaire, mais cette volonté va être une volonté marginale ou marginalisée qui va à de rares moments dans l'histoire du ministère refaire surface de façon plus forte, comme par exemple après 68, lorsque il est question donc de réfléchir à ce que signifient ces événements de mai 68 pour la France et notamment pour sa politique culturelle, et où il y a une forme d'accord, de consensus pour dire la politique de démocratisation de la culture que Malraux a voulu mener est un échec. Il faut donc revenir à une politique de la culture populaire. On ne va pas l'appeler politique de culture populaire, mais enfin c'est à ça qu'on revient. On va l'appeler développement culturel. Donc, on va donc donner un coup de ripolin, si vous voulez, à la notion de culture populaire de 1944, en l'appelant développement culturel, mais en ne changeant rien aux fondamentaux de la doctrine de la culture populaire à partir de 1969 et notamment en 1971 avec l'arrivée de Jacques Duhamel au ministère des Affaires culturelles, Jacques Duhamel qui va développer une politique de une politique de développement culturel. Développement culturel, ça veut dire effectivement que l'idée, c'est de permettre à chacun de développer ses activités, de développer son expression et de ne pas choisir par une décision publique, de ne pas choisir un domaine de l'expression par rapport à un autre. De ne pas faire de l'art, du grand art, des beaux-arts, le domaine de prédilection, le domaine privilégié de l'action du ministère, mais de comprendre l'ensemble des expressions culturelles comme étant dans le champ du ministère, et donc en leur donnant une légitimité qu'elles n'avaient pas jusqu'à présent. C'est un très beau discours. C'est un discours qui va avoir certains prolongements pratiques, notamment avec la création d'un fonds spécifique qu'on appelle le Fonds d'intervention culturelle, est d'ailleurs une structure interministérielle pour bien montrer justement que la culture n'est pas l'apanage de la tradition des beaux-arts, que la culture est une dimension de la vie. On reprend Jacques Rigaud a repris à de nouvelles. Jacques Rigaud était le directeur de cabinet de Jacques Duhamel, le ministre. Il a souvent repris cette formule. La culture est une dimension de la vie. Ça n'est pas un secteur d'administration. C'est une dimension de la vie. Et donc, si c'est une dimension de la vie, il faut que l'ensemble des administrations, l'ensemble des secteurs administratifs se retrouvent dans une action culturelle. C'est totalement utopique, mais c'est en même temps une indication très importante de ce que devrait être une action culturelle. Et le FIC est justement cette volonté d'aller chercher des projets à financer, des projets qui sont en dehors du champ des beaux-arts, qui sont en dehors des institutions classiques, des musées, de la musique, etc., et qui sont des formes nouvelles, des formes inusitées, des formes marginales, qui demandent à être reconnues dans l'espace public, qui demandent à faire partie justement de ce champ culturel de manière plus générale. Si je vais un peu vite, parce que je voudrais laisser un peu de temps pour la discussion, si je vais un peu vite là maintenant, je dirais qu'il n'y a pas grand chose d'intéressant à dire sur le plan de le champ socioculturel. Se reproduit d'année en année à peu près à l'identique. Il va commencer à éprouver un certain nombre de difficultés financières parce que l'État se retire de plus en plus du financement des postes d'animateurs. Ce sont les villes qui prennent la main. Et à partir du moment où les villes prennent la main, évidemment, elles ont des demandes ou des volontés politiques qui vont s'exprimer de façon très différente de celle de l'État. Du point de vue pour régler un certain nombre de problèmes de la vie des quartiers. Et vous le savez parfaitement, dans la vie des quartiers, le premier des problèmes qui va se poser, c'est le problème de la délinquance. Et donc, il va y avoir, et de l'occupation des jeunes, il va y avoir donc un travail très, très, très particulier là-dessus. Du côté du ministère des Affaires culturelles, on va avoir une certaine atonie de ce ministère, à part une petite innovation en 1974 avec Michel Guy. Mais on va avoir une certaine atonie de ce ministère de 1973 à 1981, jusqu'au moment où la gauche arrive au pouvoir et où le nouveau ministre, Jack Lang, crée une direction du développement culturel qui donc officialise, institutionnalise la doctrine de 1969-71 dans une direction très importante qui va avoir un rôle également extrêmement important, et notamment pour reprendre un certain nombre de ces principes de la culture populaire, pour reprendre la notion de développement culturel, pour l'étendre d'ailleurs à pratiquement au champ entier de la société, avec des réussites hein, plus ou moins importantes, plus ou moins grandes, mais avec cette volonté quand même de le faire. Voilà. Donc je vais peut-être m'arrêter là pour dire que à partir de ce moment-là, les problèmes sont bien séparés, enfin les champs sont bien séparés. On va chercher à plusieurs reprises à les rabouter. Il y a dès 1989 une première tentative de mettre en place une sorte de protocole d'accord entre le ministère des Affaires, le ministère de la Culture, puisque c'est à partir de 1982 que le ministère s'appelle le ministère de la Culture, le ministère de la Culture et certaines grandes fédérations. 89, on va retrouver ça un peu plus tard dans les années 90. On va retrouver cette politique avec Marie-Georges Buffet dans les années fin des années 90, avec une proposition d'organisation d'une sorte de forum permanent entre le ministère des Affaires le ministère de la Culture et le ministère de la Jeunesse et des Sports. Et puis voilà. Et puis finalement, il se passe pas grand-chose, sinon rien. C'est-à-dire qu'on fait des réunions, on a fait des colloques, il y a eu quelques financements, mais il n'y a pas eu de véritable politique suivie dans le long terme. Mais pourtant, il reste au sein de ce ministère, il reste ces braises. Qui continuent d'être entretenus. Et dans le domaine du socioculturel, on a vu apparaître quelques personnes, quelques associations nouvelles qui se disent le champ socioculturel est un champ sinistré, c'est un champ qui n'est porteur de rien du point de vue des idéaux qui étaient les siens à sa naissance. Et donc, il faut rebâtir une nouvelle éducation populaire. Et cette nouvelle éducation populaire, il faudrait la rebâtir en retrouvant un lien avec le champ culturel lui-même. Voilà. On pourrait évidemment donner beaucoup plus d'exemples ici. Mais je crois que j'ai assez parlé. Je vais donc m'arrêter pour laisser place, je pense, à vos réactions, peut-être vos critiques, vos observations, vos remarques.
Merci. Moi, j'ai une première question, mais qui devrait nécessiter une réponse, je l'espère, pas trop longue. 81, quand même, je me souviens de ce qu'écrit Laurent Martin dans sa biographie de Jack Lang. Il écrit avant 81, juste avant la nomination. Le Parti Socialiste reste quand même sur une vision, au moins sinon d'éducation populaire, quand même bien entachée. Dominique Taddei, secrétaire à la culture, a des propositions de ce type. Et quand Jack Lang est nommé ministre de la culture, les choses changent. Et en effet, s'il crée une direction du développement culturel, en même temps, là, pour reprendre l'expression de Jacques Rigaud, là, que j'ai noté, que je trouve assez belle, alors, il regrette qu'on ait abouti à un ministère qui est à la fois un ministère du patrimoine et des professions culturelles et qui n'est pas tout à fait un ministère des publics, ce qu'il aurait dû être avant tout. Et d'une certaine façon, enfin, est-ce que ça, vous êtes d'accord ou est-ce que vous le nuancez ou...
Non, je suis globalement d'accord. Mais pas forcément. Alors, les dates sont très, très importantes. En 1977, il y a une victoire éclatante des socialistes aux élections municipales. Et une grande partie de cette victoire est due au fait que les équipes candidates socialistes ont un programme culturel important. Et que ce programme culturel, effectivement, il est largement fondé sur l'alliance entre la culture des beaux-arts, pour aller vite, et l'éducation populaire. Parce que beaucoup de ces militants qui vont devenir des maires ou des élus dans les collectivités sont eux-mêmes issus de l'éducation populaire. Ils ont une formation, une socialisation politique qui est passée par les fédérations d'éducation populaire. Donc ils savent de d'où ils viennent et ils savent ce qu'ils peuvent faire. Mais c'est aussi en 1977 qu'au sein du Parti socialiste, il y a une bagarre entre courants, c'est pas nouveau, hein, et notamment entre Dominique Taddei, qui est le secrétaire national à la culture, et Jack Lang, qui prend sa succession en 1977 et qui devient secrétaire national à la culture. Et c'est lui qui va, au fond, fabriquer le programme culturel de Mitterrand et qui va donc lui donner une orientation un peu différente. Il y a aussi des choses que l'on oublie, mais qu'il faudrait redire. Il y a, dans toutes les années 70, dans les maisons de la culture, il y a vraiment, réellement, une activité qu'on pourrait appeler d'éducation populaire. Il n'y a pas simplement une activité artistique, il y a une activité d'animation. Et il y a d'ailleurs des animateurs dans les maisons de la culture, il y a des animateurs culturels, et l'objectif, c'est quand même de travailler avec les publics. En 1979-80, il y a dans pas mal de ces maisons de la culture une crise qui est liée à l'arrivée, à l'âge de créateur, d'artistes qui vont revendiquer d'avoir plus de place dans les programmations des grands équipements, notamment de décentralisation dramatique, dans les maisons de culture, dans les centres dramatiques nationaux. Ils vont revendiquer d'avoir une plus grande place en tant que créateurs. Et donc, ils vont mettre en cause le statut et le travail des animateurs, en disant, au fond, ce travail n'a pas vraiment donné de grands résultats, donc maintenant, laissez-nous travailler tout seul. Et ils reprennent d'ailleurs de ce point de vue une formule de l'un des plus prestigieux de ces artistes, Roger Planchon, qui dès 1967 avait dit tout le pouvoir au créateur. Tout le pouvoir au créateur. En 1968 a eu lieu ici même, à Villeurbanne, une réunion très importante de l'ensemble des directeurs de décentralisation, Centre dramatique, Maison de la culture, qui avait abouti à une déclaration, la fameuse déclaration de Villeurbanne, complètement différente de celle dans son style et dans sa visée, de celle de Planchon, qui était au contraire là aller vers les publics et notamment les publics les plus démunis, et vers ce qu'on a appelé le non-public. Mais dès 77, 78, 79, on sent cette tension, et la tension est très très intéressante à noter. C'est la tension la plus forte a lieu à Grenoble, à la Maison de la Culture de Grenoble, où l'élu, l'adjoint à la culture, doit se séparer des animateurs parce que la maison ne peut plus tourner. Et donc, il licencie les animateurs et il met à la place des animateurs, il institue comme directeur de la Maison de la Culture un artiste qui est Georges Lavaudan, donc un jeune artiste. Georges Lavaudan devient le directeur et à partir de ce moment-là, effectivement, l'artiste est au poste de commande, ce que sera donc la politique de Jack Lang. Mais ça vient avant. Et la chose qui est très intéressante, c'est que l'adjoint à la culture de l'époque va devenir conseiller culturel de Jack Lang à partir de 1982, et le président de la Maison de la Culture de l'époque celui qui va donc signer le décret d'éviction, le décret de licenciement des animateurs, c'est Dominique Vallon, qui est à l'époque professeur à l'IUP de Grenoble, où j'étais moi-même en poste, il va devenir le directeur de la direction du développement culturel créée en 1982, et c'est lui qui, en tant que directeur de cette direction du développement culturel, va mener ces deux politiques complètement différentes, l'une pour accentuer la place des créateurs et évincer les animateurs dans les maisons de la culture, et de l'autre côté, faire cette politique qu'on a appelée la politique du tout culturel, c'est-à-dire une politique essayant de traquer la nouveauté, l'innovation, l'inventivité dans tous les domaines de la vie sociale. Donc c'est lui qui va faire ça. Donc il y a une sorte de schizophrénie là, tout à fait intéressante.
Merci pour cette fresque galopante et extrêmement intéressante. Vous avez une double question qui porte sur une question de vocabulaire et sans doute aussi de représentation. Ma première question, mais je vais poser les deux, puis on pourrait répondre soit l'une, soit l'autre, soit deux. Vous avez parlé donc en 1944 de la direction. Les évolutions successives du HMAL, le développement culturel, le FIC et la DDC de Vallon, donc un investissement autour de ce secteur, même s'il est schizophrénique, mais un investissement. Et puis aujourd'hui, quand on regarde en arrière, on a l'impression que socio-culturel, c'est devenu complètement ringard, moqué, méprisé par les acteurs culturels principaux. Alors, est-ce que je me trompe? Et si vous êtes peu ou prou d'accord avec ce regard, est-ce qu'on peut le dater et l'expliquer? Donc voilà, ces deux questions de... oui. Enfin, pour moi, c'est culture populaire, éducation populaire et socioculturelle.
Alors, je commence peut-être... Je vais faire de la rétrospection. Par la question du terme socioculturel. Effectivement, aujourd'hui, quand on parle de socio-cu, c'est à la fois synonyme de ringardise, mais c'est aussi un ensemble d'activités. Ce sont des activités. Et ce sont un ensemble d'activités expressive. C'est donc... et puis ça fonctionne, je veux dire, il y en a partout. Hein, et il y en a de tous sens, dans tous les genres. C'est l'idée qu'il y a en chacun de nous la volonté d'une expression personnelle, que cette expression personnelle n'est pas redevable des règles de l'art, qu'elle peut se mettre en place en dehors des règles de l'art. C'est en ça qu'on peut parler d'ailleurs d'expressivisme, hein, pas simplement d'expression, mais d'expressivisme en tant qu'idéologie, et que elle n'est pas assujettie à un jugement de goût. Donc cela, c'est une postulation sociale de l'ensemble de nos sociétés d'aujourd'hui. Voilà. Les sociétés développées, elles ont toutes ce... Alors du coup, ça apparaît effectivement, puisqu'il n'y a Il y a de l'esthétique, mais l'esthétique ici est purement expressive, enfin elle est purement sensorielle. Elle n'est pas liée à une formation, elle n'est pas liée à des formes d'ailleurs, hein. La question de la forme ne se pose pas. C'est une esthétique, on pourrait dire, du quotidien, une esthétique banale, et donc elle ne rencontre pas justement ceux qui ne conçoivent l'esthétique qu'à travers les règles de l'art. Et j'emploie le syntagme les règles de l'art à chaque fois pour bien montrer qu'il s'agit là d'une théorie, la théorie de Pierre Bourdieu sur la construction de l'art en société. Hein. Donc ça m'apparaît effectivement être un point tout à fait important. Alors aujourd'hui, on ne va pas dire le socio-cul, on va dire la participation culturelle. On va essayer de trouver une sémantisation un peu différente pour parler à peu près des mêmes choses. Mais au départ, et d'un point de vue technique, le terme socioculturel, c'est le terme qui est le bon terme, c'est le bon vocable pour parler de cette culture populaire des années telles qu'on l'envisageait en 1944-45. C'est-à-dire la culture, effectivement, une forme d'anthropologie, une culture anthropologique, la culture d'un peuple. Et le terme socioculturel ne réfère pas au social et au culturel, il réfère à l'expression pattern sociocultural, le sociocultural pattern, pardon. C'est-à-dire le modèle socioculturel analysé par les anthropologues, et notamment l'anthropologie américaine. Donc socioculturel n'a rien à voir avec la contraction sociale et culturelle dans les premiers temps où elle est utilisée, mais tout à voir au contraire avec l'anthropologie sociale et culturelle des Américains, et notamment de ceux qui ont mis en valeur les traits ou les modèles socioculturels de la société. Et l'un des sociologues qui ont le plus marqué le champ de l'éducation populaire et la notion de culture populaire, c'est Geoffroy Dumasdier. Et Geoffroy Dumasdier a repris dans ses travaux les auteurs, les anthropologues américains, et le terme socioculturel vient de là. C'est aussi lui, d'ailleurs, qui est l'inventeur, en tout cas le propagateur en France, de la notion de développement culturel. Donc, là, on a quelque chose, effectivement, qui a une... Disons que si on fait une espèce de généalogie, on va trouver les éléments. Alors, après, la question de savoir pourquoi on a abandonné le terme de culture populaire très vite dans l'intitulé de la direction de Guéhenno, je pense que c'est tout simplement parce que culture populaire, c'était vraiment peuple et culture. Et peuple et culture avaient... Guéhenno et Dumasdier ont tout de suite eu un contact extrêmement fort entre eux. Et Guéhenno a vu dans Peuple et Culture justement l'association nouvelle qui allait, si elle était créée en plusieurs exemplaires, qui allait révolutionner justement le monde de l'éducation populaire. Alors que, en réalité, ce monde de l'éducation populaire, il était structuré par des fédérations déjà importantes, plus anciennes, et que ces fédérations ou ces associations ne se reconnaissaient pas trop dans le vocable de culture populaire. Ou bien ça faisait front populaire, ou bien ça faisait communiste, ou bien on ne comprenait pas du tout ce que ça voulait dire. Or, éducation populaire, c'est quand même la tradition de la République, la Troisième République, c'est la tradition de Dreyfus, enfin de l'affaire Dreyfus, des universités populaires, etc. Donc, c'est à mon sens l'explication que je donne. Après, il y en a peut-être d'autres, mais c'est celle que je retiens. Il y a une autre question ? J'ai répondu aux trois questions.
D'autres interventions, d'autres interrogations ? Mais s'il n'y a pas d'autres interrogations, si.
vous avez pratiquement répondu à la question en disant qu'il y a effectivement une tension entre animation et éducation. Et dans l'évolution des mouvements, d'abord il y a une chose qu'il faut dire d'emblée, c'est que les mouvements d'éducation populaire sont la plupart du temps peuplés d'enseignants. Donc, ils savent ce qu'est l'éducation. Beaucoup d'enseignants. Mais, globalement, les mouvements d'éducation populaire se situent ou se pensent contre l'école, contre le modèle de transmission qui est celui de l'école. Et donc, pour d'autres méthodes. La question, c'est comment on va les appeler, ces autres méthodes? Alors, hein, méthodes actives, les CMA, les centres d'éducation aux méthodes actives. Donc, il y a quelque chose qui fait référence à la technique même du rapport au public, du rapport au public de l'éducation populaire. Ça, c'est une première source, ou en tout cas un premier élément de réponse. Ensuite, la question de le terme animation s'est imposé par rapport à deux origines. L'une est une origine, disons, une réflexion sur l'urbanisme nouveau. Qu'est-ce que c'est que cet urbanisme nouveau, fonctionnaliste, hérité des théories de Le Corbusier, qui finalement crée des espaces résidentiels nouveaux. Et à côté des espaces résidentiels nouveaux, crée ce que Le Corbusier appelait des prolongements du logis. Et ces prolongements du logis étaient censés animer la vie sociale. Animer, donner de l'âme à la vie sociale. Et donc ça, c'est une première source de la notion d'animation. Et la seconde, c'est à l'intérieur même des mouvements. Il y a eu beaucoup de difficultés pour savoir comment on allait appeler les animateurs. On ne pouvait plus les appeler chefs. Chef, ça fait Vichy. Les chefs de jeunesse, c'est Vichy. Les cadres, c'est l'entreprise. Cadres de jeunesse, c'est les cadres, c'est dans l'entreprise qu'il y a des cadres. Et c'est justement la période où les cadres deviennent la catégorie sociale montante, etc. Donc, le terme est apparu. Alors, on trouve ce terme à plusieurs reprises dans un certain nombre de textes épars. On le trouve assez souvent dans des textes de l'école d'Uriage. Pas le terme d'animateur, mais on trouve le terme d'animation. Et donc, le terme, c'est alors, à quel moment précisément et dans quel texte il est précisément apparu, ça, je ne sais pas. C'est une question un peu piège, je ne sais pas. Mais il a commencé à être utilisé à la fin des années 50, pas avant, à la fin des années 50, et on a commencé à parler d'animation socioculturelle comme quelque chose qui faisait référence à un domaine dont on savait à peu près de quoi on parlait, au milieu des années 60. Au milieu des années 60. Et ce terme d'ailleurs d'animation socioculturelle est venu supplanter le terme d'activité socio-éducative qui était préféré par un certain nombre de mouvements qui avaient des traditions sociales anciennes, d'action sociale, je veux dire, anciennes, ou des traditions d'éducation populaire anciennes, proches aussi des milieux syndicaux, des milieux syndicaux de l'éducation nationale. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on retrouve aujourd'hui, ça, si vous promenez dans une association d'éducation populaire aujourd'hui, vous allez retrouver exactement les mêmes débats aujourd'hui. C'est-à-dire que les termes leur posent problème. Nos salariés, c'est quoi? Ce sont des médiateurs, ce sont des animateurs. On ne sait pas comment les appeler. Les musées ont, lorsqu'ils se sont convertis à l'éducation populaire, ils ont appelé leurs animateurs des médiateurs pour ne pas faire la confusion avec ces animateurs de quartier là qui sont vraiment sans intérêt. Dans les bibliothèques, on parle aussi des médiateurs.
Des médiateurs du livre. Mais on voit bien les formes de différenciation, de déplacement léger, de recomposition des termes fonctionner dans différents groupes professionnels, dans différents secteurs, avec toujours la nécessité de se différencier les uns par rapport aux autres et surtout d'éviter les stigmates. Ou alors là, aujourd'hui, effectivement, l'animation socioculturelle, c'est un stigmate lourd à porter.
Autre chose.
En conclusion, je voudrais d'abord, d'une part, se vous remercier, rappeler qu'on peut vous lire dans l'Observatoire, la revue de l'Observatoire des politiques culturelles de Grenoble. On peut vous lire dans ce texte, le texte assez dense que vous avez écrit dans ce recueil. Il y aurait quand même encore deux points importants, mais qu'on ne soulèvera pas ce soir, qui, moi, m'intéresseraient vraiment. Le premier, c'est en effet quel est l'héritage de Vichy, parce que tout de même, on sait bien, en particulier en économie, que Vichy a laissé des héritages que la République suivante a gardé, a conservé. Et quand vous parlez du RIA, justement, c'est quand même particulièrement intéressant. Et puis le deuxième, c'est justement, alors là, pour le coup, le futur, c'est l'article que vous avez écrit sur les villes créatives, qui sont finalement à l'autre bout de la chaîne, cette espèce de vision un peu... vous l'écrivez, donc je peux le dire, mais enfin, je suis assez d'accord avec cette idée, cette vision un peu marketing de la culture et des villes créatives qui laissent finalement sur le chemin quand même une bonne partie du public qu'on est censé desservir. Je vous propose qu'on vous réinvite sur cette question, parce que sinon, on va quand même encore... Et c'est très bien, hein, mais allez-y. Oui, oui. Allez-y. Oui, oui. Qui porte précisément sur la question des villes, les métropoles et la culture, et donc la ville créative va être au centre de l'affaire. Et je participe à ce colloque. Alors, concernant Vichy, il y a quand même des choses assez factuelles à dire, toutes factuelles. La première chose factuelle à dire, c'est que des organisations de Vichy, comme l'école des cadres du RIAGE ou le mouvement Jeune France, j'en ai pas parlé, mais enfin c'est un mouvement aussi important, qui sont des mouvements qui ont été créés par Vichy pour le premier former les cadres de la jeunesse, je l'ai dit, le deuxième pour apporter des activités artistiques et culturelles à la population en zone dite libre à l'époque. Ont été fermés par le gouvernement de Vichy, par Laval, fin 42. Et elles sont passées ensuite à la résistance, pratiquement, enfin tous les cadres sont passés à la résistance. Et donc, ce ne sont pas des résistants de la dernière heure, hein, ce sont vraiment des résistants qui ont, à partir de 42. Donc, on a là des militants, des jeunes qui ont été formés dans les maîtrises, ce qu'on appelait ça les maîtrises Jeunes France, qui vont être le terreau en termes de système d'acteurs de tous les gens que l'on va retrouver au poste de responsabilité comme directeur de troupe, comme directeur de théâtre, comme directeur d'équipement culturel, etc. De la fin des années 40 jusqu'à la fin des années 70. À peu près, avec une cassure en 68, parce qu'il y en a pas mal qui ont été mis à la retraite d'office. Donc, ces gens-là, qui avaient 20 ans en 36, qui en avaient 30 en 46, eh bien, c'est eux qui ont structuré la politique culturelle française dans les années 50, 60, 70.
Et ils viennent des écoles des cadres, ils viennent des maîtrises Jeunes France, ils ont ce parcours-là. Ça, c'est un point factuel et très, très intéressant. Le deuxième point, c'est que dans sa volonté donc d'embrigadement de la jeunesse, en tout cas de contrôle de la jeunesse, Vichy avait commencé à créer des maisons de jeunes. Beaucoup de maisons de jeunes. Et ces maisons de jeunes ont toutes été récupérées, après épuration bien sûr, par le gouvernement de la République et mises à disposition de la Fédération des maisons de jeunes de la culture. Et certains autres, d'autres fédérations. Donc, on a un embryon matériel, un embryon de structuration matérielle du monde de l'éducation populaire, puis du socioculturel, qui naît effectivement sous Vichy, qui a été récupéré de Vichy. Donc on peut penser que c'est pour ça que dans un autre ouvrage, je parle des innovations paradoxales de Vichy. C'est paradoxal parce que il y a des innovations alors que Vichy est un régime qui est de réactionnaire en art, comme c'est pas possible. C'est vraiment une réaction totale. C'est on prend le contre-pied de tout ce qu'on a, de tout ce qu'on avait adoré depuis la fin du 19e siècle en matière d'art. Hein. C'est le retour à la représentation, le retour aux traditions, etc. Donc ça, c'est vraiment. Mais plus la question de l'épuration des Juifs, tout ça. Donc ça, c'est. Bon. Mais cette chose-là est très importante. Et ça a été un grand problème de mémoire. Au sein des fédérations d'éducation populaire. Je m'en suis rendu compte personnellement, parce que j'ai été pendant assez longtemps, j'ai été membre de cette association dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est l'association Peuple et Culture, et je me suis rendu compte à un certain moment que le discours qui était tenu par ceux qui avaient fondé l'association poser quelques problèmes que la jeune génération, notamment la mienne, ou même des gens un peu plus jeunes, étaient mal à l'aise avec ces fameux héritages de Vichy. Comme en plus, il y a eu une polémique de presse très, très, très violente au moment de la parution d'un ouvrage de Bernard-Henri Lévy. En gros, c'était tous fascistes. Tous les gens, enfin, tous ces gens de l'école du Riage, etc., tout ça, c'était des fascistes. Et donc, on était, au fond, l'éducation populaire était un peu les héritiers du fascisme. Et ça avait provoqué, vous imaginez bien, une crispation terrible à l'intérieur des mouvements de l'éducation populaire, tous de gauche et d'une belle gauche. Alors, c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait un problème de mémoire. Et je me suis rendu compte, alors, pour Peuple et Culture, parce que j'ai posé la question. C'est quand qu'on célèbre le 40e anniversaire de l'association Peuple et Culture? On me dit, 44. Oui, mais les statuts ont été déposés en 45. Alors, c'est quoi en 44? Et puis, à un colloque sur justement la résistance dans l'Isère, j'apprends, j'étais dans le public, je communiquais pas, c'était en 79, je crois. Je ne communiquais pas, mais il y avait des gens de Peuple et Culture à la table, et Benigno Cáceres, pour ne pas le nommer, raconte l'histoire de Peuple et Culture à sa façon. Peuple et Culture, c'est les gens qui descendent des maquis et qui font Peuple et Culture à Grenoble le jour de la libération, 1944. Et puis il y a quelqu'un dans la salle qui dit, mais non, c'est pas ça. Peuple et Culture existait avant. Peuple et Culture existait en 1936. Et Peuple et Culture, en 1936, c'était un mouvement communiste. Moi, j'en étais, d'ailleurs, dit-il. J'en étais. Et j'ai fait venir Frédéric Joliot-Curie et puis plein d'autres gens à ce collège du travail qu'on appelait Peuple et Culture et qui était lié à la CGT de l'époque. Bon. Alors, Cáceres dit mais c'est autre chose. Bon. Et en fait, j'ai fait des recherches Et je me suis rendu compte que lorsque les gens du Riage, dans le maquis, dans la résistance, ayant beaucoup réfléchi à Uriage à ce qu'il fallait faire pour la libération, ayant beaucoup réfléchi dans les maquis à ce qu'il fallait faire, arrive avec un projet tout fait pour mettre en place à Grenoble. Eh bien, ils ne savaient pas très bien comment l'appeler, et dans leur discussion avec d'autres gens de la résistance, on leur dit, mais pourquoi vous n'appellerez pas ça Pepeculture, puisque ça reprendrait le terme de l'association que nous avons créée en 1936 à Grenoble, au moment du Front Populaire. Oui, dit Dumasdier, oui, très bien, comme ça, ça fera un lien avec la ville et avec 36. Et puis, arrivé à Grenoble, il a mis, en gros, les communistes à la porte, et il a d'abord appelé la section du comité départemental de la libération Peuple et Culture, c'est-à-dire que Peuple et Culture n'était donc pas une association, mais un élément des pouvoirs publics de l'époque. C'était la commission éducation du comité départemental de libération. Et ça n'est devenu une association que 6 mois plus tard, en février, ou 7 mois plus tard, en février 45, sous le nom Peuple et Culture. Et dès que Peuple et Culture a été créé comme association, dès que le manifeste a été rédigé, il n'a plus jamais été question de cette histoire de 1936. Donc, on avait ce jeu de mémoire entre 36, Vichy, la libération, la résistance, qu'il fallait absolument éclairer. Et je me suis rendu compte d'exactement du même problème avec la Fédération des Maisons des Jeunes et de la Culture, lorsqu'ils ont eux aussi voulu faire leur célébration du 40e anniversaire et du 50e. Il s'est trouvé dans l'assistance des gens pour dire oui, mais quel est notre rapport à Vichy quand même? Les maisons des jeunes, c'est Vichy qui les a créées. Oui, c'est Vichy qui les a créées, bien sûr. Mais il ne les a pas créées comme elles étaient à la libération, il ne les a pas créées avec les mêmes objectifs, il ne les a pas créées dans le même esprit, etc. etc. Voilà. Évidemment, quand on ne dit rien sur les origines, alors on laisse la porte ouverte à tout un tas de fantasmes et on s'aperçoit là aussi du rôle de gardien de la mémoire d'un certain nombre de grands ancêtres, hein, de grands fondateurs qui endossent ce rôle et qui ne vont jamais dévier. Benigno Cáceres n'a jamais dévié d'un pouce de sa ligne. J'ai eu de multiples discussions avec lui sur cette question, il n'a jamais voulu en convenir. Quant à Dumasdier, il m'avait répondu d'une façon totalement lapidaire. En 36, j'étais pas à Grenoble. Et c'est vrai, il était à Paris. Donc lui, c'était pas son affaire.
Merci à vous. Merci de votre attention. Donc comme je l'avais indiqué dans un message un peu lapidaire, mais que je compléterai au début de la semaine prochaine, le 21, nous recevrons Marc-Olivier Baruch pour les lois indignes, point d'interrogation. Et donc, j'aurai l'occasion de vous en parler un peu plus longuement et de vous dire un peu plus longuement de quoi il en retourne. Merci.